Chapitre 39. Callan glissa sa botte gauche dans un étrier, saisit le pommeau de la selle et se hissa sur sa monture. Quand elle se pencha pour tendre une main à Verna afin de l'aider à la rejoindre, le cuir froid craqua sinistrement entre ses cuisses. Dès que la dame abbesse fut installée en croupe, deux sœurs lui passèrent le seau rempli de poussière de verre. Cara et Philippa étaient déjà prêtes au départ.
« Envoyez les petites à l'arrière, » ordonna Verna, « pour qu'on leur fasse traverser le défilé. »« Ce sera fait, ne vous inquiétez pas, »
répondit une sœur nommée Dulcinea.
« Quand la mère inquisitrice et moi en aurons terminé, lâchez dans le vent le verre que vous aurez concassé. Puis repliez-vous derrière nos lignes pour participer à la défense, au cas où l'ordre réussirait quand même à avancer. Si notre manœuvre échoue, les sœurs de la lumière devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retenir l'ennemi aussi longtemps que possible. Ainsi, beaucoup d'hommes à nous auront le temps de franchir le défilé. »
Dulcinea fit signe qu'elle avait compris les ordres. Tout le monde attendit en silence pendant quelques minutes, le temps que Zed ait rejoint Warren et mis un plan au point avec lui. Callan cessa de se demander si elle allait réussir ou échouer et se concentra sur la tâche qui l'attendait. Dans un coin de sa tête, cependant, elle n'ignorait pas combien étaient précaires les tactiques élaborées à la dernière minute. Jugeant qu'attendre plus longtemps serait dangereux, elle indiqua à Cara de passer à l'action. Croisant le regard de sa protégée, la mort de Sith lui sourit, souffla un « bonne chance » presque inaudible et partit au galop, Philippa accrochée à sa taille par un bras, tandis que l'autre maintenait en place le seau calé entre ses cuisses. Alors que les roulements de sabots du cheval de Cara s'estompaient dans l'obscurité, Callan s'aperçut qu'elle captait dans le lointain les cris de guerre de milliers de soldats ennemis. Comme une marée, ils approchaient inexorablement, certains de triompher. Inquiet, le cheval de l'inquisitrice renacla. Callan bouillait d'envie de passer à l'action, mais elle devait attendre que le nuage aveuglant lâché par Cara et Philippa ne soit plus sur son chemin.
« Je me sentirais mieux si nous pouvions utiliser la magie pour nous défendre, » souffla Verna. « Hélas, nos ennemis la détecteraient. »
Callan acquiesça distraitement. La dame abbesse disait ce qui lui passait par l'esprit pour ne pas trop penser à ce qui les attendait. Insensible au froid pourtant mordant, l'inquisitrice sondait l'obscurité en essayant d'imaginer comment se présenteraient les choses. Quand on envisageait toutes les possibilités, on ne risquait plus d'être surpris et les décisions devenaient plus faciles à prendre. Sur un champ de bataille, anticiper était le maître mot lorsqu'on voulait éviter de finir les tripes à l'air. Immobile sur sa selle, Callan se laissa lentement envahir par la colère qui ne la quittait plus depuis la capture de Richard. Pour une guerrière, c'était un bien meilleur stimulant que la peur. Afin d'alimenter sa rage, elle repensa à toutes les horreurs que l'ordre impérial avait commises sur le territoire des contrées du milieu. Dans son esprit, des centaines de cadavres mutilés défilèrent pour exiger muettement d'être vengés. Callan se souvint des femmes qu'elle avait vues pleurer sur les cadavres de leurs enfants, de leurs maris ou d'autres membres de leur famille. Elle revit la détresse d'hommes pourtant forts et courageux devant les dépouilles déchiquetées de leurs proches. Et toutes ces victimes, se rappela-t-elle, n'avaient jamais rien fait pour s'attirer la haine de leurs bourreaux. Les soldats de l'ordre n'étaient qu'un ramassis de tueurs sans pitié. Ils ne méritaient pas qu'on se montre humain avec eux. Et maintenant que Richard était entre leurs mains, elle ne voyait aucun inconvénient à les tuer jusqu'au dernier pour le récupérer.
« Il est temps d'y aller, » souffla-t-elle entre ses dents serrées. « Vous êtes prête, Verna ?»«
Oui. Ne ralentissez sous aucun prétexte, sinon nous finirons aveugles. Et espérez que le vent ne change pas de direction au dernier moment. » Quand nous aurons traversé la vallée et lâché notre cargaison, nous ne risquerons plus rien. À ce moment-là, la panique régnera dans les rangs de l'ordre. Accrochez-vous bien, on y va. »
Très énervé, sans doute à cause des cris, le cheval démarra en trombe, manquant désarçonner la dame abbesse. Mais elle s'accrocha à la taille de Callan qui lança un bras en arrière pour la retenir par une manche. Miraculeusement, le seau ne se renversa pas et Verna parvint assez vite à recouvrer son équilibre. Même s'il lui obéissait, le cheval de Callan était angoissé par les cris des attaquants, et le poids inhabituel qu'il devait porter l'incitait à se montrer moins coopératif que d'habitude. Rompu au combat, il savait ce que signifiaient les hurlements dans le lointain, et lui aussi, après tout, avait le droit d'être effrayé,
mais il restait fort et rapide, et ces deux qualités pour la présente mission étaient essentielles.
Le cœur battant la chamade, Callan tendit l'oreille et estima que l'ennemi avait encore avancé depuis que Kara et Philippa avaient traversé la vallée. Des fragments de souvenirs vinrent un instant perturber la concentration de l'inquisitrice. Un cercle d'hommes, en pleine campagne, prêts à fondre sur leur proie comme une meute de chiens de chasse. Loin d'occulter ces images, Callan s'en servit pour attiser le feu de sa colère. Les soudards qui attaquaient les contrées allaient aussi payer pour ce crime-là. Mais où étaient les premiers rangs adverses exactement? Si elle s'en était trop approchée, l'inquisitrice risquait de chevaucher au milieu d'une bande de tueurs déchaînés. Mais lancer la poussière mortelle de trop loin n'était pas une solution non plus. Le sachant, elle résista à la tentation de guider son cheval vers la droite, loin des attaquants. Des éclairs jaunes déchirèrent soudain l'obscurité, assez puissants pour colorer d'orange les nuages et le tapis de neige environnant. Le grondement qui accompagnait les flammes fit vibrer le sol et se répercuta jusque dans la poitrine de l'inquisitrice. Une centaine de pas devant elle, volant à quelques 10 pieds du sol, une boule de feu de sorcier fondait sur l'ennemi. Bien qu'elle ne fût pas visée par cette attaque, le vacarme qui la ponctuait faillit arracher un cri de terreur à Callan. Le feu de sorcier n'avait guère de secret pour elle, et elle avait toutes les raisons de s'en méfier. Quand ces flammes s'attaquaient à une proie, les éteindre se révélait quasiment impossible, car elles s'accrochaient à la peau comme des ventouses. Une seule étincelle suffisait souvent à carboniser la chair et les muscles. Dans ce monde, il n'existait personne d'assez courageux ou idiot pour ne pas redouter le feu de sorcier. Très peu de ses victimes survivaient pour raconter leur expérience, et ces miraculés gardaient jusqu'à la fin de leur jour une seule idée en tête, se venger du sorcier qui leur avait infligé ça. À la vive lueur de la sphère embrasée, Callan eut son premier aperçu de la horde de guerriers armés d'épées, de fléaux, de haches, de piques et de lances. Gagnés par l'ivresse de la bataille, ces soldats n'avaient plus rien d'humain, une bande de fauves assoiffés de sang. Jusque-là, Callan s'était fait une idée de l'armée ennemie à partir de rapports oraux ou écrits. Si évocateurs qu'ils fussent, les mots ne pouvaient pas rendre compte d'une réalité pareille. Une telle masse d'hommes dépassait l'imagination, et on ne parvenait pas à en croire ses yeux, même quand on la voyait devant soi. Les attaquants étaient encore plus près que l'inquisitrice l'avait cru. Au milieu de cet océan de chair et de sang, les flammes des torches vacillaient comme les lumières d'un phare par une nuit de tempête. Et de fait, Callan n'aurait pas été plus étonné que cela de voir des navires de guerre chevaucher cette gigantesque déferlante. Le premier rang était déjà trop près. Talonnant son cheval, Callan le fit reculer un peu pour avoir assez de champ avant de traverser la vallée. Quand elle estima avoir atteint la position idéale, elle lança l'animal au galop. Une pluie de flèches et de lances lui rappela que ses ennemis aussi pouvaient la voir grâce au feu de sorcier. Elle allait devoir jouer serré. Après avoir survolé des milliers de fantassins, la boule de feu qui avait révélé sa position à l'ennemi s'écrasa au milieu des rangs de la cavalerie, comme souvent en embuscade derrière les fantassins, et prête à charger quand ceux-ci entraient au contact avec les défenses d'Aran. Dans le lointain, des cris et des hennissements de douleur retentirent. Une flèche frôla la jambière droite de Callan, et d'autres sifflèrent à ses oreilles. Alors qu'elle se penchait sur l'encolure de sa monture, un projectile se ficha dans la selle, à quelques pouces de son ventre. Apparemment, la lumière de la lune suffisait pour que les archers voient leur cible. Une très mauvaise nouvelle.
« Pourquoi ne sont-ils pas encore aveugles ?»
demanda Callan à Verna. La dame abbesse avait incliné le seau afin que la poussière de verre s'en échappe. Très concentrée, elle envoyait sur les attaquants un nuage qu'ils devaient prendre pour de la brume. Après le passage de Kara, les soudards auraient déjà dû avoir des problèmes.
« Il faut un peu plus de temps pour que ça marche, »
souffla Verna à l'oreille de sa compagne.
« Ils n'ont pas encore assez battu des paupières. »
Une nouvelle boule de feu s'envola, des flamèches la parant d'une queue semblable à celle d'une comète. Sentant que son cheval paniquait, Callan lui flatta l'encolure pour lui rappeler qu'il n'était pas seul à affronter cette épreuve. Alors qu'elle continuait à passer devant le premier rang d'attaquants, l'inquisitrice plissa le front pour mieux voir. Les yeux écarquillés par la fièvre de la bataille, les soudards battaient bien un peu des paupières. La boule incendiaire s'écrasa sur eux et des flammes presque liquides embrasèrent des centaines d'hommes. Affolés, ils coururent en tous sens, percutèrent leurs camarades et leur firent prendre feu aussi. Dans la confusion, les soldats des rangs arrière tentèrent de reculer, semant encore plus de désordre.
Sur un petit périmètre, la percée de l'ordre était enrayée. Mais des grappes de combattants contournaient l'obstacle sans accorder un regard à leurs infortunés frères d'armes. Une nouvelle boule de feu jaune s'éleva dans le ciel nocturne. S'envolant une seconde après, une petite sphère bleue vint la percuter juste au-dessus des premiers rangs ennemis. Explosant à l'impact, les deux projectiles déversèrent sur les fantassins une véritable grêle de flammes. Tirant sur les rênes de sa monture au dernier moment, Kalan évita de justesse une langue de feu mortelle. Une manœuvre inspirée mais qui l'avait encore rapprochée des soudards de l'ordre, dont elle distinguait maintenant les visages fendus par des rictus obscènes. L'inquisitrice talonna son cheval afin qu'il s'écarte sur la droite. L'animal obéit, mais il n'infléchit pas assez sa trajectoire pour que ses cavalières soient en sécurité. Terrorisé par l'averse enflammée et l'odeur de cuir brûlé qui montait à ses naseaux, l'animal ne réagissait plus vraiment aux ordres de sa cavalière. S'avisant que des flamèches dansaient sur une de ses jambières, Kala n'osa pas les chasser d'un revers de la main, de peur qu'elles restent collées à sa peau. Que se passerait-il quand le feu aurait traversé le cuir? Rien de bien agréable, elle le savait, mais il lui faudrait supporter la douleur. Sans s'apercevoir que les choses tournaient mal, Verna continuait à déverser sa poudre de verre. Porté par le vent, le nuage s'enfonçait profondément dans les rangs adverses. Avec un peu de chance, il ferait des dégâts parmi les officiers prudemment placés au milieu de leurs hommes. Une flèche frôla l'épaule du cheval, puis continua son vol et disparut dans la nuit. Ayant reconnu la mère inquisitrice, des dizaines d'hommes rompant les rangs se ruaient sur elle en hurlant. À l'évidence, ils entendaient l'encercler, lui bloquer le passage et refermer sur elle les mâchoires de leur piège. Kalan tenta de faire tourner sa monture à droite. Terrorisée, la bête continua à galoper directement vers les fantassins qui tentaient de coincer les deux cavalières.
« Nous nous approchons trop !» cria Verna.
Trop occupé pour répondre, Kalan continua à tirer sur les rênes, mais le cheval résistait de toutes ses forces et à ce jeu-là, elle n'était pas de taille contre lui. Kalan le talonna furieusement sans obtenir l'ombre d'un résultat. Devant elle, les guerriers brandissaient des piques et des épées, une muraille d'acier qui déchiqueterait les chairs du cheval et de ses cavalières si rien ne se passait. L'inquisitrice avait depuis longtemps accepté l'idée de mourir au combat, mais pas ainsi, en se laissant passivement entraîner vers sa fin. Elle retira son pied droit de l'étrier, leva la jambe, la lança en arrière et enfonça le talon dans le flanc de sa monture.
« Kalan, que faites-vous ? »
s'écria Verna. En frappant plusieurs fois du talon, l'inquisitrice réussit à obtenir que le cheval infléchisse sa trajectoire, mais pas assez pour qu'il ne continue pas à foncer sur les soudards. À quelques pas du désastre, l'animal tourna enfin la tête comme s'il voulait changer de direction.
« Oui, c'est ça !»
lui cria Kalan. Il restait une minuscule chance d'éviter la muraille d'acier. Pour alléger sa monture, Kalan se dressa sur les étriers, puis elle se pencha en avant, le dos bien droit. Pliant les bras, elle donna autant de mou que possible aux rênes et passa les bras autour de l'encolure du cheval. Tout en le dirigeant avec ses mollets, elle lui laissait la liberté dont il avait besoin pour réussir une manœuvre délicate. Était-ce seulement possible avec le poids qu'il devait porter? Kalan l'ignorait et ce n'était plus le moment de se poser la question. Si les piques avaient été un peu moins longues, elle se serait donné de bonnes chances de survivre, mais là...
« Verna, accrochez-vous !»
Une boule de feu de sorcier rasant le sol les dépassa et fondit sur les soldats qui jusque-là attendaient les deux cavalières. Comme un seul homme, ils se plaquèrent au sol. Le projectile embrasé leur frôla les omoplates, puis alla s'écraser sur un groupe de fantassins une cinquantaine de pas plus loin. Des cris d'agonie montèrent de centaines de gorges. Le cheval de Kalan tendit le cou et plia les jambes sans cesser de galoper. Au dernier moment, il prit son envol, comme lors d'une compétition de saut d'obstacle, une activité que Kalan adorait quand elle était adolescente, passa au-dessus des soudards aplatis par terre et se réceptionna impeccablement. Étant dressé sur les étriers, Kalan put amortir le choc de la réception avec ses jambes. Toujours assise en croupe, Verna n'en fut pas capable. En plus de lui faire sûrement très mal au postérieur, sa raideur involontaire faillit déséquilibrer le cheval, déjà mis en difficulté par la double charge qu'il transportait. Il se rétablit par miracle et repartit de plus belle. Au moins, les soldats de l'ordre n'étaient plus une menace pour l'instant.
« Qu'est-ce que vous fichez ? »
cria Verna.
« Ne faites plus d'écart pareil, j'ai expédié ma poudre n'importe où. »« Désolé !»
hurla Kalan par-dessus son épaule.
Malgré le vent glacial, elle ruisselait de sueur. Tournant la tête un instant, elle eut l'impression que les premiers rangs d'attaquants étaient un peu plus loin à présent. Et Verna et elle avaient pratiquement traversé la vallée. Déchaînés, Warren et Zed continuaient à offrir à l'ennemi un fabuleux feu d'artifice de sorcier. Même si elle restait insuffisante pour arrêter une horde de cette taille, une pareille démonstration de puissance avait de quoi glacer les sangs. Mais déjà, les boucliers érigés par les forces magiques de Jagang limitaient les dégâts. Ça n'avait plus d'importance, puisque Zed et son compagnon avaient gagné assez de temps pour que l'inquisitrice et la dame Abbess accomplissent leur mission. Kara et Philippa rejoignirent Kalan et Verna, chevauchant quelques instants à côté d'elles. Calmées par la présence de l'étalon de la mort de Sith, bien plus placide apparemment, la monture de l'inquisitrice consentit à ralentir le pas, puis à s'arrêter. Quand les quatre femmes eurent mis pied à terre, Verna jeta au loin son seau vide. Heureuse qu'il fasse nuit noire, ainsi personne ne s'apercevrait que ses genoux jouaient des castagnettes, Kalan examina sa jambière et constata soulagé que le feu s'était éteint avant d'avoir traversé le cuir. En silence, les quatre femmes regardèrent les explosions qui continuaient à déchirer la nuit. La plupart des boules de feu se désintégraient contre des boucliers, mais ça ne les empêchait pas d'être dévastatrices pour tous les hommes qui se tenaient devant les protections magiques. Zed et Warren bombardaient littéralement de feu les rangs ennemis. Bien entendu, les magiciennes adverses ripostaient de la même force, semant la mort dans les rangs d'Aran, mais les sœurs de la lumière aussi avaient invoqué des boucliers. L'équilibre, toujours l'équilibre. Pourtant, la horde avançait encore. Si le barrage de feu la ralentissait, il ne l'arrêterait pas. Puis, tout cessa d'un coup. Ayant repris les choses en main, les magiciennes des deux camps se neutralisaient, comme d'habitude. Face au raz-de-marée de l'ordre, les lignes de défense d'Ara n'avaient aucune chance de tenir, ni même de ralentir l'adversaire. À la lumière de la lune, Kalan les vit commencer à battre en retraite.
« Verna ! » s'écria-t-elle. « Ça ne marche pas ! Vous êtes sûr que la poussière de verre avait les propriétés requises ?»
Dans le vacarme, la dame Abbess parut ne pas avoir entendu la question. Kalan posa la main sur la garde de son épée. Combattre serait parfaitement inutile, mais quelle autre option lui restait-il ? Sentant le contact de l'arme de Richard dans son dos, elle envisagea de la dégainer, mais y renonça. En réalité, il restait une option. Fuir, et espérer reprendre la lutte un jour dans de meilleures conditions. Elle prit Verna par le bras et la tira vers leur cheval, qui haletait encore de fatigue. Kara entraîna Philippa vers leur propre monture. Alors qu'elle allait sauter en selle, Kalan remarqua que les attaquants avançaient moins vite. Quelques hommes titubaient, et beaucoup d'autres marchaient les bras tendus devant eux comme des aveugles.
« Écoutez !» cria Verna.
Des cris de terreur retentissaient dans toute la vallée. Au premier rang, les soldats se percutaient les uns les autres, ébranlèrent avec leur épée comme s'ils tentaient de pourfendre un ennemi invisible, certains taillaient en pièces leurs propres camarades. Bientôt, la première ligne s'immobilisa et provoqua une bousculade géante. Paniqués, les chevaux désarçonnaient leurs cavaliers puis s'éparpillaient dans toutes les directions, se fichant des hommes qu'ils écrabouillaient sous leurs sabots. Des chariots se retournèrent, ajoutant à la confusion. Ce soir, l'ordre impérial n'irait pas plus loin. Arrivant au galop, Zed et Warren prirent à peine le temps d'attendre que leur monture soit arrêtée pour sauter à terre. Tous les deux en sueur, malgré le froid glacial, ils semblaient épuisés, mais ravis. Kalan se précipita et prit la main du vieux sorcier entre les siennes.
« Vous nous avez sauvé la mise à la fin. »«
Lui, pas moi !» disait en désignant son compagnon.
« Eh bien, j'ai vu que vous étiez dans l'embarras, j'ai cru bon d'intervenir. »
Un moment, tous regardèrent en silence la débandade des soldats aveugles.
« Vous avez réussi, Verna !» dit Kalan. « Votre verre pilé nous a épargné un désastre. »
Les deux femmes tombèrent dans les bras l'une de l'autre et pleurèrent de soulagement.